La question de la résurrection du Christ, depuis l'origine même de l'Église, a toujours été une ligne de partage des eaux. D'un côté, ceux qui l'accueillent comme le fait de Dieu, puissant, fait puissant, indiscutable, historique, et sur lequel toute leur foi, tout le poids de leur engagement chrétien repose. Et puis de l'autre, ceux qui n'arrivent pas à concevoir cet événement comme un fait historique, comme une résurrection corporelle, et qui reçoivent et interprètent l'évangile de Pâques comme un récit symbolique, qui parle du Christ vivant dans la mémoire, dans le cœur des croyants. Et déjà, à Corinthe, certains dans l'Église mettaient en question la résurrection du Christ. Et c'est ce qui nous vaut ce matin l'une des plus prestigieuses, l'une des plus fameuses petites phrases de l'apôtre Paul que nous égrenons depuis quelque temps. Il nous dit, eh bien, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide et nous sommes les plus pitoyables de tous les hommes. Pitoyables, malheureux, à plaindre, c'est le même sens. Pour Paul, la résurrection n'est pas un concept théologique. La résurrection n'est pas une façon poétique de parler de l'élan vital et spirituel que l'enseignement et la personne du Christ ont produit dans le cœur de ses fidèles. Non. Pour Paul, la résurrection, c'est l'événement sans lequel rien ne tient. Le premier indice de cette résurrection historique du Christ, Paul le repère dans le nombre impressionnant, considérable des témoins. Où le Christ est vraiment ressuscité, où l'Église est un asile de fous, doublé de mythomanes. 500 personnes qui témoignent avoir vu le Christ vivant après Pâques. Ça fait quand même du monde. Et pour Paul, ce témoignage massif représente, constitue une preuve. Alors, il est vrai que le témoignage des tout premiers chrétiens du matin de Pâques tenait plus de l'affolement, de l'effarement que du discours bien maîtrisé. Stella a bien relevé cet aspect du récit. Pour Paul, ces témoins, dont lui-même se déclare le plus petit, ces témoins étaient plus éblouis que réfléchis, plus abasourdis que bien pensants. De toute évidence, leur témoignage n'est pas bien maîtrisé. Et c'est ce qui explique la différence entre les récits des quatre évangiles. Ils sont tous différents. Et si pour nos amis musulmans, ces divergences portent atteinte à la crédibilité de l'événement lui-même, puisque la révélation ne peut pas se contredire si elle est de la main de Dieu, ces divergences représentent au contraire, à mes yeux, un véritable cachet d'authenticité. Parce que ces divergences entre les récits, eh bien, elles nous ramènent, elles ressemblent à la vraie vie. Par exemple, les quatre évangiles ne tombent pas d'accord sur le nombre de femmes présentes au tombeau. Deux ou trois chez Marc et Matthieu. Il y en a plus encore chez Luc. Il n'y en a qu'une seule chez Jean, Marie de Magdala. Alors, il y en a combien ? Et zéro chez Paul, puisqu'il n'y a que 500 frères chez Paul. Pas une femme citée. Qui a raison ? Mais peu importe, ce qui apparaîtrait réellement suspect, ce serait au contraire que face à un pareil tremblement de terre, chacun témoigne calmement et à l'unisson une version unique, maîtrisée. Pâques, comme l'exprime peut-être avec le plus de force et d'authenticité l'évangile de Marc, c'est d'abord la peur, le silence, la sidération et la fuite. Ça s'achève là-dessus chez Marc, hein. Elles eurent peur. Voilà le dernier mot de l'évangile de Marc. Les premiers témoins étaient sonnés debout. Mais ils n'ont pas pu faire autrement que de propager cette nouvelle ahurissante et bouleversante à la fois. Ils ont osé le dire. Le crucifié a vaincu la mort. Il a été ressuscité. Et l'Église est fondée sur l'annonce de cette nouvelle à la fois bonne nouvelle et hallucinante, et qui restera toujours une folie, et qui sera toujours la cause d'un mélange en nous de joie et de stupéfaction. Et en préparant ma 32e prédication de Pâques, je me suis demandé si c'était encore pour moi une nouvelle affolante. Si je ne ferais pas mieux cette année comme les femmes de l'évangile de Marc, de lire le récit devant vous, de prendre mes jambes à mon cou et de disparaître dans la panique et le silence avant de me mettre à crier sur tous les toits des échoppes bordelaises, ce truc insensé, qu'il est vraiment ressuscité. Mais je me suis demandé aussi si, au contraire, Pâques était devenu pour moi une affaire classée, un sentier battu de la prédication, un dimanche liturgique sympa, une occasion de chanter la Marseillaise des protestants. À toi la gloire. Si Pâques n'était pas devenu une banalité de ma foi. Et en entendant Paul me dire ce matin, mon pauvre, mais si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que tu racontes, tout ce que tu fais, tout ce que tu crois, tout ce que tu espères depuis plus de 30 ans, c'est du vent. Frères et sœurs, en entendant cette parole de l'apôtre Paul, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait de la résurrection du Christ dans ma vie? Et puis j'ai ressenti une joie profonde et une voix intérieure qui me disait, Christ est ressuscité, mon gars. Il est vraiment ressuscité. Vous savez, on dit que les théologiens passent leur temps à répondre à des questions que personne ne se pose, ou bien à enseigner des choses qui les dépassent complètement. Oui, je confirme. C'est bien ce que je suis en train de faire devant vous ce matin. Je me sens complètement dépassé par ce que je vous annonce. Avec Stella, Dieudonné et Pierre, je vous dis, Christ est ressuscité. Mais ne me demandez pas de vous expliquer comment ça marche, la résurrection. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux faire ici et maintenant, c'est en témoigner devant vous. Et je témoigne aussi que cette résurrection du Christ a eu un effet immédiat sur ma vie. Comme si, en sortant du tombeau, Christ m'avait fait sortir du mien. Et la seule preuve, la toute petite Et toute fragile preuve que j'ai de cette libération de la mort, c'est ma foi. C'est la preuve subjective, intérieure, indiscutable, qui peut donner à ma vie une dimension nouvelle, à mes pas, à ma marche, une assurance étonnante, et à mes relations une profondeur particulière. Ne cherchons pas à prouver, à justifier notre foi en Christ ressuscité. Vivons comme des ressuscités et non comme des morts en sursis. Toute l'originalité de la foi de Pâques, sœurs et frères, c'est son incarnation, son enracinement dans notre vie. C'est un corps qui sort du tombeau vide. Les religions et les nouvelles sagesses de notre époque nous indiquent des chemins d'élévation. Elles nous invitent à des expériences mystiques, très désincarnées. Souvent, elles considèrent le corps comme une gêne, un boulet, une cause de chute. Ces nouvelles pensées, ces nouvelles fois nous invitent à regarder au-delà du monde, vers une spiritualité, un ailleurs. Dans les évangiles de Pâques, Jésus nous donne rendez-vous en Galilée. C'est la zone, la Galilée. C'est la banlieue de l'orthodoxie juive à l'époque. C'est pour nous, la Galilée, il faut l'entendre comme la vraie vie du XXIe siècle. C'est notre Galilée à nous, la vie spirituelle et éternelle. Au lendemain de Pâques, c'est la rencontre avec tous. C'est le don gratuit, c'est l'entraide, la fraternité. C'est faire église entre Français, Malgaches et Congolais. Nulle part ailleurs ça existe, ça. Ce n'est jamais une fuite dans une bulle de spiritualité d'un dimanche de Pâques sans lien avec le reste de la semaine. Non. Même si nous ne comprenons pas bien ce qui s'est passé ce matin-là à Jérusalem, même si nous sommes incapables d'expliquer la résurrection, il y a en nous cette certitude, cette puissance de vie indiscutable que nous ne pouvons nier, que nous ne pouvons pas contrôler non plus, ni banaliser, et qui nous entraîne à dire contre le reste du monde, avec Paul, mais non, Christ est vraiment ressuscité. Amen.